C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Savez-vous que le conteur, comédien, metteur en scène Valéry Gouy a failli être footballeur professionnel et ne jamais mettre son nez dans les contes? Heureusement que sa maman a veillé au grain. Aujourd'hui que les vieux conteurs traditionnels ont disparu, Valéry Gouy, en véritable jardinier, plante des graines et prend soin de préserver l'art de la parole. Chef d'équipe attentif, il soutient les artistes en herbe, veille à la préservation des traditions autant qu'à la création contemporaine. Un véritable engagement au service du conte. C'est Anne-Gaëlle Goduchaud qui a rencontré Valère lors de la 4e édition du festival Graines de Parole en Martinique. Un festival dédié aux plus jeunes sous l'aile artistique de Valéry Gouy et l'association Martinique Images. 6850 km séparent la métropole de la Martinique, mais... avec quelques coups de tambour bêlés, nous y sommes en un clin d'œil. Alors, c'est pas pour dire, on va danser.
Ma belle, quelle jolie vie, oh ma belle. Ma belle, quelle jolie vie, oh ma belle. Ma belle, quelle jolie vie, oh ma belle. Ma belle, moi je viens de son ambit, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Ma belle, on a point pour ton gâteau, ma belle. Ma belle, désengage ma bonne.
Mesdames, messieurs, j'arrive à l'entrée du quartier. Je rencontre une petite fille qui me dit « Valère, où vas-tu ?» Je lui dis que je viens justement ici même. Vous comptez deux, trois mots, quatre paroles. Et elle me dit « Mais je te connais. Quand tu comptes, tu bouges, tu sautes. » Et vous savez, les histoires sont dans ma tête comme des bulles d'eau. Si je bouge de trop, ça chauffe et les bulles d'eau risquent de s'évaporer. Alors elle me dit de prendre mon petit carré madras, de mettre sur la tête, comme ça je garde les histoires en sécurité. Est-ce que la cour d'or...
Non,
je ne dors
pas.
Yeah, qui? Yeah. Yeah, Mr. Qui?
Yeah,
Mr. Qui? Qui? Yeah, qui?
Yeah,
qui? Yeah, qui? Yeah, qui?
Yeah,
qui?
C'est pas pour dire, au pipiri chantant, avec le conteur Valéry Gouy.
Valéry Gouy, bonjour.
Belle bonjour.
Ça va bien?
Ça va, ça va.
Donc, je suis conteur.
Je suis conteur.
Depuis, t'es né conteur ou bien...
Je suis né dans une famille d'artistes à Sainte-Marie, dans la ville qui était considérée comme le berceau de la culture de la Martinique.
Sainte-Marie, précisément.
Sainte-Marie.
Le berceau de la culture de la Martinique.
Voilà.
La culture orale ou bien...
La culture orale, la culture dansée, la culture musicale, le ballet est très profondément... À Sainte-Marie, Bezoudun, les endroits comme ça, les combats de damiers se faisaient beaucoup à Sainte-Marie.
C'est quoi les combats de damiers?
C'est la lutte un petit peu comme la capoeira, voilà, ouais. Mais plus proche de la lutte du Sénégal. Et on l'appelle soit damier, soit ladja. Mais c'est...
Comment ça se fait que c'est... Pourquoi cette ville-là?
Parce que je ne sais pas pourquoi cette ville-là, mais presque tous les peuples qui ont habité qui ont traversé la Martinique, ont mis les pieds à Sainte-Marie. Que ce soit pour quelques minutes, ou pour des mois, ou pour des années. Sainte-Marie, bon voilà, parce qu'on est dans... On n'est pas loin de la mer, non. On n'est pas loin de la mer, et en même temps, on est dans les terres très fertiles, et on n'est pas loin du nord, on est dans le nord Atlantique, on n'est pas si loin que ça du sud non plus. Donc voilà, c'était un lieu de carrefour, je ne sais pas pour quelle raison, c'est
donc
comme ça.
Donc tu es né dans cet endroit, dans cette ville qui est la ville culturelle, qui était traditionnellement le berceau.
Et autour de chez moi, il y avait évidemment des chanteurs de ballet, des danseurs, il y avait des conteurs, tout ce monde-là était là et... Ma mère a joué au théâtre.
D'accord.
Et à l'époque, elle appelait ça des concerts. Mmh. C'était souvent proche de l'église, puisque la religion catholique occupait une grande place en Martinique. En tout cas,
elle jouait au théâtre ou dans l'église ?
Au théâtre. Mais c'est l'église qui... les associations proches de l'église qui faisaient ça. D'ailleurs, j'ai été choriste au MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Donc, quand on est ado, on touche à ça, ben, on a déjà la parole. Et puis, j'ai un grand frère qui est conteur traditionnel. Quasiment tout le monde dans la famille est passé dans l'association, dans la vie associative, dans la culture. Et je suis le dernier de 8 enfants. Donc, j'ai vu tout le monde
passer. T'as vu tous les autres.
Et donc, je me suis imprégné de cela. Et à l'âge de 20 ans, avec mon grand frère, j'ai fait ma formation de comédien.
Mais j'étais déjà à la chorale. Comment il s'appelait
ton grand frère ?
José. D'accord.
José. Et donc, il m'a formé pour tout ce qui est conte, théâtre de la Caraïbe. Mon prof de théâtre, on va dire classique, c'est un Africain, un Sénégalais, John Youssoufa. C'était un docteur en théâtre. Ouais. Et puis tout ce qui
ici, à
Fort-de-France. Oui, à la Trinité, toujours en Martinique.
Tu te souviens du moment, la première fois où tu as raconté en public ?
Oui, alors en tant que comédien d'abord, puisque José Dalma, qui est un comédien, qui était salarié du Centre Dramatique Régional, et moi j'ai juste après ma formation, avant la fin de la formation, nous étions deux à avoir signé notre contrat, deux ou trois, avec le Centre Dramatique Régional, donc formation terminée, on a embrayé tout de suite. Ouais. Et on leur avait donné carte blanche, à José Dalma également, et il a monté une pièce qui s'appelle Majolet, comme Bajolet, Majolet, parole, de Jean-Claude Corbin. Il avait choisi trois contes, trois comédiens, et il avait mis en scène les contes avec nous. Il y avait une comédienne qui était aussi chanteuse, il y avait un autre comédien qui était plutôt humoriste, et avec moi, il a créé un spectacle, il a monté un spectacle Majolet, et dans ce spectacle, il y avait des contes. Donc j'ai commencé à compter.
Sur scène. On n'est pas dans du conte
déveillé là. On n'est pas dans du conte. Ce qui s'est passé, c'est que une fois comme ça, comme je suis le petit frère de José, les gens, quelqu'un me dit, tu peux venir compter, nanana. Je lui dis, je ne connais pas trop de contes, j'y vais. Et puis les contes que ma mère nous racontait quand on était petit, il y a un, deux, trois contes qui viennent, plus le conte que j'ai appris et que j'ai compté. Et puis à la fin de l'année, quand j'ai fait le point, je pouvais compter une heure.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça s'est fait tout seul. Ouais. Et puis, le naturel est revenu. Je me suis rendu compte que je n'ai pas le goût d'être quelqu'un d'autre, de jouer un personnage. J'ai envie d'être moi-même. Et le conte était beaucoup plus riche et me permettait davantage de pouvoir m'exprimer, d'être moi aussi. Et de ce fait, petit à petit, j'ai bifurqué, je suis resté dans le camp.
Ton grand frère n'a pas vu ça d'un mauvais œil, qui a petit derrière, là, le petit dernier, qui se pointe dans sa cour de...
Non, parce qu'en fait, l'espace du conte, à cette époque-là, était peut-être en train de reprendre ou était en train de stagner. Et c'était intéressant qu'il y ait d'autres contes. Le théâtre avait pris le pas. Il y avait beaucoup plus de théâtre qu'il y a eu, toute l'histoire, on éteint certaines choses, etc. Et de ce fait, j'ai commencé à compter, entre guillemets, sans lui, plus loin de ses oreilles et qui fait que j'ai développé pas mal de choses. Et bien après, on s'est retrouvés là-dessus. Mais non, ça a toujours été un espace ouvert d'échange, de partage. J'avais même écrit un spectacle que je voulais faire avec lui. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. Voilà.
Je fais une parenthèse, mais tu as employé plein de mots là, absolument inconnus de mes services. Ou en tout cas de ceux qui nous écoutent. Alors, tu as parlé du belay.
Oui.
Tu as parlé de cette forme comptée qu'on appelle bajolé, c'est
oui.
ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, le belay, c'est une danse de chez nous, une danse de la Martinique. On peut l'appeler danse traditionnelle si on veut.
C'est aussi un tambour.
C'est aussi un tambour qu'on appelle tambour belay. C'est belay.
Belay.
Belay. Et le belay se danse il y a belay licide, il y a belay du nord, etc. Il y a
D'accord.
deux façons de danser le belay.
Okay.
8 danseurs, c'est des carrés qu'on crée pour danser face à face. Il y a un carré qui descend au sol, un autre carré se lève. Ça, déjà, en entrant, on tourne. La musique, on arrive, on tourne. Ce sont des formes. C'est très codifié. Et c'est très physique aussi. Et dans le belay, il y a aussi Kalenda. Kalenda est encore plus physique. C'est une danse où des fois, le danseur saute. Il fait des bonds, il fait des sauts. Et il y a aussi le Ladja ou le Damier qui est aussi lié au belay. Mais c'est une... Aujourd'hui, c'est un peu plus une espèce de danse-lutte, mais à l'époque, c'était de vraiment lutte, etc., codifié et tout. Et ce qui est du bajolé, c'est... Bon, je rigole quand les slameurs disent qu'ils ont inventé des choses, mais nos vieux conteurs faisaient déjà ce qu'ils appellent aujourd'hui du slam. C'est un petit peu ce qui est le bajolé, c'est-à-dire raconter des histoires avec des rimes. Des fois ce sont des métaphores filées, des fois c'est pas de métaphores, c'est directement des rimes. Par exemple, c'est Tissonson, moi, son, il voulait faire commission, quand il m'y s'était lisson, qui arrivait à la commission, qui a crié m'y s'était lisson, qui apparaît, etc., etc., avec des sons, etc. Mais on raconte des histoires.
Mais c'est improvisé ou c'est écrit?
C'est écrit, ça peut être improvisé aussi. On peut, les conteurs aiment jouer, ils peuvent se provoquer sur une thématique.
Ah oui, il peut y avoir des joutes de bajolé.
Exact. Et puis, tu es obligé d'entrer dans la création. Donc, voilà. Et il y avait souvent de la poésie dans les contes aussi. L'un des conteurs d'ici qui l'a le plus entretenu, c'est Élie Pénon, qui dans sa façon de conter, il y a toujours un texte de Césaire, qui glisse dedans, il y a toujours quelque chose. Mon frère mettait aussi de la poésie, sa poésie dans ses textes aussi, etc. Je considère que j'ai beaucoup de chance d'être né à Martinique, dans cette culture tellement riche, parce que quand je voyage, je trouve des morceaux de ce que nous avons entièrement, je trouve des morceaux à certains endroits.
Tu dis ça ?
Oui.
Ah, par, oui.
Par, j'ai l'impression que, par exemple, sur la France, le conteur, il s'avance devant le public. Et il commence à raconter son histoire. Il ne vérifie pas si les gens sont prêts, sont pas prêts, etc. etc. À d'autres endroits, ils peuvent passer des minutes et des minutes à établir le lien, à presque fatiguer les gens, à prendre le temps, etc. Et, tout. Et nous avons une forme de cérémonie dans notre façon de conter où il y a tout dedans. L'arrivée, la présentation, l'introduction, la mise en relation, la vérification que les gens sont capables d'aller dans l'imaginaire et ensuite de raconter. Et pendant qu'on raconte, il y a quelque chose qui est plus ou moins spécifique au conte de la Martinique, ce qu'on appelle vulgairement, on fait des branches. Pendant qu'on raconte l'histoire qui va tout droit, comme un arbre qui monte, on sort de l'histoire. On va dans la société, un fait divers, on dit quelque chose, on raconte quelque chose, ou on peut faire un petit coup de bajolet et on revient à l'histoire et on continue l'histoire.
Ça sert à vérifier qu'on reste connecté aux gens qui sont là et à la situation. Et...
C'est également pour ça, mais c'est également pour rester dans la vie sociale du lieu où on est.
Pendant que je suis marché, je suis allé à l'ouvre devant moi et je continue à avancer. Je suis marché. Et à force de marcher, je suis arrivé ici. Vous comprenez le créole? Je suis parti depuis ce matin de la Martinique. J'ai commencé à marcher. Pendant que je marchais, le chemin s'ouvrait sous mes pas et j'arrive ici à Montréal. À peine arrivé à Montréal, je viens ici dans cette salle pour vous conter deux, trois mots, quatre paroles. Je rencontre une petite fille qui me dit « Valère, où vas-tu ?» Je lui dis que je viens ici même vous conter deux, trois mots, quatre paroles et elle me dit « Mais je te connais. Quand tu comptes, tu bouges, tu sautes. » Et vous savez, les histoires sont dans ma tête comme des bulles d'eau. Si je bouge d'eau trop, mon corps chauffe et les bulles d'eau risquent de s'évaporer. Alors, je mets mon petit carima de grâce sur la tête, comme ça, je garde les histoires en sécurité. Ça vous va? À Yekrik, on répond, Yekrak. Yekri. Yemistikri. Kri. Est-ce que la cour dort? Oui, c'est exactement ça. On dit non, la cour ne dort pas. Le conte en Martinique est interactif. Vous êtes donc des spectateurs. Vous participez à l'histoire. Yekri. Yemistikri. Kri. Kri. Yekri. Un bon matin. Au pipiri chantant, une famille se lève. Le jeune garçon a 9 ans. Il se sent grand. Mais il est désobéissant, tellement désobéissant, c'est comme partir d'ici pour arriver à Miquelon. Si désobéissant, que jusqu'à 9 ans, on ne l'a jamais laissé seul. Et ce matin-là, les parents vont le laisser seul à la maison. On lui a demandé de rester dans la maison, de jouer. Il y a la barrière blanche tout autour de la maison. De l'autre côté, il y a la forêt. On ne peut pas sauter la barrière et aller à la forêt. Eh bien, les parents sont partis au village, lui il est entré dans la maison, il a commencé à jouer, il a tourné en rond, il a ouvert le frigo, il a pris tout ce qu'il y avait dedans, il a mangé, il s'est endormi, il s'est réveillé, il a joué dehors, il a tourné, jusqu'au moment où il monte sur la barrière blanche. Il regarde la maison et se dit, j'ai 9 ans, je suis grand, qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire un tour dans la forêt, hein? Maman et papa me demandent d'obéir, mais c'est quoi ça, cette histoire d'obéir tout le temps là? Il regarde la forêt et se dit, mais peut-être que les parents ont raison, je devrais peut-être rester à la maison et obéir. Mesdames, messieurs, au bout de quelques regards, le jeune garçon saute la barrière et il entre dans la forêt.
Valérie Gouy avec un extrait de L'Enfant désobéissant enregistré lors du Marathon du Conte, spectacle de clôture du Festival interculturel de Montréal. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Ce que tu racontes, toi, ton répertoire, c'est quoi?
Donc, dans mon répertoire, on peut trouver du conte de la Martinique, du conte de certains pays de l'Afrique de l'Ouest.
Juste comme ça, quand tu dis conte de la Martinique, ils ont été conservés comment? Est-ce qu'il y a une tradition orale qui s'est jamais arrêtée? Ou bien est-ce qu'ils ont été notés comme chez nous à un moment, dans des livres, au moment où ça se perdait? Comment ça s'est transmis?
Alors, les deux choses se sont produites. La tradition orale ne s'est jamais véritablement arrêtée. Par exemple, en Martinique, on a toujours parlé créole. Que dans d'autres régions en France où c'était interdit, on a bloqué, il y a eu plus ou moins les mêmes volontés d'interdire, mais on ne s'est jamais arrêté de parler créole, on a toujours parlé créole. Et dans notre quotidien, on raconte tout le temps. Donc les contes sont passés, existent dans le quotidien. Les vieux conteurs à la veillée mortuaire, ben, ils racontaient. Donc, ça a continué à exister. Et puis, il y a eu un travail assez important de quelques personnes. Par exemple, Ina Césaire, qui a fait un travail extraordinaire sur le conte, qui a rencontré les vieux conteurs et qui a concerné.
Elle est ethnologue.
Oui.
Ethnologue, c'est ça.
Et il y a eu Marie-Thérèse Léotin aussi. Il y a eu d'autres encore. D'autres personnes
qui sont allées collecter
ou qui ont créés à partir de leur mémoire, qui ont écrit à partir de leur mémoire, simplement. Puisque dans toutes les familles, ça circulait. Et donc, dans mon répertoire, il y a les contes de ce que m'a raconté ma mère, ce que j'aurais peut-être presque ce que j'ai entendu un peu dans la famille, des contes de la Martinique, des contes qui ont été, comment dire, qui sont partis de chez nous et qui sont revenus en livre. Je les remets en bouche et je rappelle que c'est d'ici.
Ça vient de là.
Voilà, que ça vient de là.
T'as puis, un exemple comme ça de le conte qui est parti et qui est...
Le bateau enchanté, par exemple.
Ouais.
L'histoire des enfants, ouais. etc. Et... j'ai aussi des contes d'Afrique de l'Ouest parce qu'on fait des échanges, on a des amis conteurs, on se dit, etc.
Et puis il y avait des personnages en commun quand même. C'est pas,
oui.
C'est pas lièvre, c'est lapin.
C'est lapin, mais c'est la même structure, c'est la même chose. C'est plus ou moins les mêmes histoires.
Hyène, par exemple, je suppose qu'il n'y a jamais eu de hyène ici.
Pas de hyène. Alors hyène, c'est justement par rapport aux échanges que j'ai avec les autres artistes, donc conteurs particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, je leur donne un compère lapin, ils me donnent une hyène, etc. etc. C'est pour ça que j'ai des hyènes dans mon répertoire.
Tu as écrit aussi des...
Oui. J'en parle pas beaucoup, j'aime pas tellement en parler parce qu'il y a déjà tellement de choses à dire dans l'oralité du monde, parce que je considère le conteur faisant partie... Le conteur est un maillon de l'entretien de la mémoire humaine. Et si on se met tous à écrire, on tue la mémoire. Et c'est pour cette raison, dans mes formes de spectacle, ici on ne parle pas beaucoup de spectacle, mais quand je sors, dans mes formes de spectacle, il y aura toujours un conte traditionnel, il y aura toujours une création, il y aura toujours un conte d'un autre conteur, parce que j'ai envie que l'ensemble existe, parce que c'est notre siècle.
Depuis la Martinique, notre globe conteuse Anne-Gaëlle Goduchaud en compagnie de Valère Aigoui.
Je me suis demandé en lisant Glissant, quand il parle des traces, cette notion de trace, elle est passionnante. Dit bon, il y a les monuments, les trucs en pierre et en dur, qui sont en général... fait par les colons ou en tout cas de toute façon par ceux qui ont le pouvoir et qui racontent l'histoire à leur manière, disons, voilà.
Ouais.
Et puis ben, y a tout le reste, évidemment que les esclaves n'ont pas laissé de monuments, mais si
ils ont laissé le geste,
c'est ça.
Ils ont laissé la culture de la réflexion. Ils ont laissé les plantes, ils ont laissé les arbres, ils ont laissé la mémoire qui circule et tout. Je travaille actuellement à la création d'une fiche pour l'UNESCO sur le conte de la Martinique. Et la femme universitaire qui travaille avec nous en ce moment, elle a fait sa thèse sur les traces aussi. Et donc ça tombe parfaitement bien. Et à peine que je lui avais présenté le projet, elle avait compris. De quoi on parle? On parle de la trace, on parle de la mémoire, mais c'est ça.
Parce que là, je suppose que tous ces peuples qui se sont côtoyés plus ou moins douloureusement et ou harmonieusement sur cette île ont laissé, j'imagine, les Amérindiens qui étaient là on a du mal à savoir ce qui circule dans nos histoires, dans ces vieilles histoires.
Alors, à chaque fois qu'il y a les nuits des musées, souvent le musée d'archéologie de Fort-de-France fait appel à moi, ou en tout cas à la sculpture que je dirige, pour faire des propositions de soirées spécifiques avec, par exemple, les contes Waro. C'était un peuple. Et de temps en temps, je peux glisser un conte Waro dans mon
répertoire.
Plutôt des légendes. En gros, on a cinq phrases. On a une petite dizaine de lignes. Et il faut reconstruire. Mais ça me plaît beaucoup. Je l'ai fait plusieurs fois. Et quand je ne suis pas présent, ben, je le transmets à d'autres et je leur montre comment développer. Et sachant qu'on n'a pas beaucoup de professionnels ici, ben, je vais faire appel à 2-3 personnes pour faire une forme de complément et présenter quelque chose d'intéressant. Mais dans les objets que nous utilisons, dans notre façon de cultiver aussi, on a la trace amérindienne. Les Kalinago particulièrement.
C'est quoi ?
C'est le nom d'un peuple. Il y en a encore à la Dominique, l'île de la Dominique qui est au nord de la Martinique. Il y a encore un peuple Kalinago qui vit à la façon traditionnelle.
Ici, à la Martinique, il n'y a plus de descendants d'Amérindiens.
On peut les voir à travers les visages.
Ah oui.
Oui. Il y a des gens, quand on les regarde, ben, on voit, on a la projection d'un Caraïbe. Et tout. Du côté de, je sais pas si jusqu'au Venezuela, mais peut-être Trinidad, en tout cas dans la Caraïbe, il y en a qui étaient ici, des Arawaks par exemple, qui sont partis, qui sont allés à d'autres endroits de la Caraïbe, et on trouve tout ça là, les traces dans la Caraïbe. Si on recolle tous les morceaux, on recolle également l'histoire.
Et donc, ouais, j'imagine que à travers les contes martiniquais, il y a aussi, j'imagine, des éléments qui viennent emprunter à toutes ces vies, à toutes ces cultures, et à tous ces savoir-faire, cette relation au monde, à la nature.
Voilà. Oui, oui, parce qu'en fait, comme nous sommes toujours au contact de la nature, certes, on vit dans les maisons, mais on vit très souvent dehors. Nos maisons sont ouvertes et l'air ne fait que circuler, passer. Et donc, nous sommes très proches de cette nature. Donc, il y a des choses qui probablement durent plus longtemps dans notre façon de vivre parce qu'on est plus proche de la façon de vivre d'il y a longtemps. Donc, c'est double. Et peut-être plus dans les objets qu'on utilise. Par exemple, le cuy. Un cuy, c'est la calebasse coupée en deux. Et ça fait des années, des dizaines, des centaines d'années qu'on utilise la calebasse de cette façon, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles, dans la Caraïbe. Et les Amérindiens l'ont utilisé pareil. Ils l'ont fait avec la terre cuite. Aujourd'hui, on a une très belle usine de poterie, un village de la poterie en Martinique. Et c'est aussi cette façon de l'entretenir. Malheureusement, il nous reste qu'un seul lieu de la vannerie des Caraïbes, c'est au Mont-des-Esses, là où je suis né aussi. Et au Mont-des-Esses, on continue à travailler le cachibou, le cachiment, la vannerie, à créer des formes avec les mains et tout, et ça se transmet encore. Et c'est ça que nous avons encore des Caraïbes d'avant, l'utilisation de la nature. On utilise encore le roucou, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour se protéger des bestioles, que ce soit pour se maquiller. C'est présent en fait. On est en lien avec notre passé, notre mémoire.
Envoie sur terre l'homme et la femme. À peine arrivée sur terre, la femme met un genou à terre et elle commence à creuser. Y creuser, 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 creuser. Elle a tellement bien creusé qu'elle a fini par faire une espèce de grotte, une espèce de galerie souterraine. À peine avait-elle fini de creuser que Yankalté, modèle de soleil, commençait à s'échauffer Soleil te cache, chauffer, 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 chauffer. Soleil te cache. Le soleil descendait frapper la terre avec une telle violence que la terre se fendait en mille morceaux. Mesdames, messieurs, l'homme qui était resté de l'autre côté, qui n'avait rien fait, se sent complètement humide, la chaleur, il commence à transpirer à grosses gouttes et il cherche où est la femme. Il regarde un peu partout et là, il voit là-bas l'entrée de la grotte, à l'abri. Alors il s'approche. Femme. La femme ne répond pas. Il appelle encore. Femme. La femme ne répond toujours pas. Elle sort la tête de la grotte, elle ne répond toujours pas et l'homme lui demande. Laisse-moi entrer. Et la femme répond non. Vous allez faire un non bien sec, hein? Un non. C'est sérieux. Laisse-moi entrer.
Non.
Mais tu vois bien que je suis au soleil. Si je n'entre pas, je vais perdre tout l'eau de mon corps. Je risque de mourir. Laisse-moi entrer.
Non.
Mais si je n'entre pas, je risque, si je meurs, tu seras toute seule sur terre. Que vas-tu faire? Laisse-moi entrer.
Non.
Mesdames, messieurs, le gars a insisté, il a posé des questions, il a essayé. Et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Il est parti voir Dieu. Fiou! En ce temps-là, la terre et le ciel étaient tout proches. Hein? Vous pouvez y aller rapidement. À peine arrivé, Dieu, ne voilà-t-il pas qu'il fait un soleil de plomb sur terre? La femme a construit une belle petite grotte. Elle ne veut pas que j'y entre. As-tu demandé gentiment? Lui dit Dieu. J'ai demandé gentiment, mais elle m'a dit...
Non.
As-tu insisté? J'ai insisté, mais elle m'a dit...
Non.
Dames, messieurs, Dieu est un petit peu embêté par tout cela. Demande à l'homme d'appeler la femme. La femme arrive auprès de Dieu. Mesdames, messieurs, la femme est arrivée auprès de Dieu et Dieu lui demande, mais que se passe-t-il sur terre? Je vous ai donc envoyé tous les deux et l'homme me dit que, ah non, Dieu, c'est pas comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai creusé, 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 creusé. L'homme n'a rien fait, alors c'est non. Et Dieu qui essaie d'expliquer, mais vous êtes ensemble, trouvez donc une solution. Non, il n'y a pas de solution, c'est non. Mesdames, messieurs, avant que la femme ne reparte, Dieu a partagé les forces. Parce qu'en ce temps-là, la femme était plus forte physiquement que l'homme. Force partagée, elle redescend sur terre et l'homme reçoit un peu de force et on aménage un peu la matière grise en même temps. L'homme arrive sur terre avec ce que Dieu lui a dit. Il va à la rivière, il prend des pierres, il va à la forêt, il prend des arbres, des feuilles, des troncs, il va dans la plaine, il prend de la boue, de la terre glaise et il construit une belle petite case. À peine avait-il fini de construire sa belle petite case, Yanka, tes modèles de la pluie commençaient à tomber. La pluie t'es qu'à tomber, 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 tomber. La pluie t'es qu'à
tomber, 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 tomber.
La pluie
t'es qu'à tomber, 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 tomber.
Il pleuvait tellement que les crevasses s'étaient rebouchées, l'eau était entrée dans la grotte et l'eau commençait à monter. La femme ne voulant pas mourir asphyxiée est sortie de la grotte. Et que voit-elle là-bas? La belle petite case. Alors elle s'approche. Elle arrive à côté de la case et elle appelle. Homme! L'homme ne répond pas. Elle appelle encore. Homme! L'homme ne répond toujours pas. Il sort sur sa petite véranda, bras derrière le dos, poitrine bombée en avant, mais ne répond toujours pas. Et la femme qui lui dit, mais laisse-moi entrer. L'homme lui répond,
non.
Mais tu vois bien que je suis sous l'eau, j'ai déjà les cheveux collés sur la tête, laisse-moi entrer.
Non.
Si tu ne me laisses pas entrer, je risque de mourir. J'ai même déjà attrapé la crève. Laisse-moi entrer.
Non.
Et comme dans toute discussion avec une femme, elle finit par pousser un cri. Ah! Je ne sais pas si les femmes de Mana ni de par ici font ça. En Martinique, les femmes crient.
Valéry Gouy, conteur de la Martinique, avec un extrait de L'homme et la femme. C'est pas pour dire, la conteuse Anne-Gaëlle Goduchaud, invitée au festival Graines de Parole. Elle interviewe pour nous le directeur artistique Valère Aigouy.
Est-ce que tu dirais que ça inclut aussi une capacité à se relier au symbolique, au récit symbolique?
Oui, mais c'est pas pour rien quand on dit « écrit » que les gens répondent « yéka », quand on dit « mist écrit », on fait appel au mystique aussi. On est imprégné de... On vit avec les esprits.
Et ça, alors, ça m'étonne. Il y a mystique, ça parle de ça,
du mystique. Le mystique est présent, oui. Il y a certes la force de magico-religieux est présent, etc. Et chez les Caraïbes aussi, etc. Le jeu de mots, les métaphores, les choses qu'on dit, on voit mais on ne voit pas, le conteur avec son objet qui pour lui fait la liaison entre ceux qui ont parlé avant et avec lui, sa façon de poser le bâton au sol, sa façon d'entrer dans la parole, il est en présence des autres. Et d'ailleurs, chez nous, on dit on ne compte jamais seul. Et même quand... Et dans les deux sens, c'est très rare chez nous qu'il y ait un conteur en spectacle. Même si on l'a invité tout seul, il y aura toujours un autre conteur qui va prendre la parole, à qui il va donner la parole, etc. etc. Cet aspect de ne jamais être seul existe dans la réalité, mais aussi dans nos têtes. On sait que quand on parle, quelqu'un l'a déjà dit avant, et donc on fait honneur à cette personne qui a porté cette parole jusqu'à nous. Et oui. Personnellement, j'ai plus de facilité à retenir quand j'ai écouté que quand j'ai lu.
Je trouve qu'en Europe et en France singulièrement, on commence à avoir un peu de mal avec le symbolique. Et que les gens sont tellement habitués à voir des fictions super réalistes où tu as d'un côté le méchant, de l'autre côté le gentil, il n'y a pas de...
Voilà, il n'y a pas de glissement.
Il n'y a pas de glissement aucun. Et... que j'ai l'impression qu'on commence à avoir du mal avec l'idée que quand je te parle de ça, en fait, je te parle de tout ce qui est au-dessus, puis aussi tout ce qui est en dessous, et tout ce qui est à côté.
Ben, c'est présent. Chez nous, plus on va quitter le centre-ville, plus on va aller vers les terres, on va aller rencontrer les pêcheurs ou les autres, et plus on va le sentir. Parce que ils le ressentent davantage parce qu'ils sont moins pollués par tout ce soi-disant modernisme. C'est présent dans le quotidien parce que, par exemple, il pleut, tu vas arriver avec ton parapluie chez ta maman et tu vas entrer parce que tu ne veux pas être mouillé. Elle va te dire « Non, tu n'ouvres pas le parapluie dans la maison ?» On va faire référence. Au début, quand tu es petit, tu ne sais pas. On te dit ton chapeau, tu l'enlèves, ou bien on ne siffle pas dans la maison, on ne fait pas telle ou telle chose, parce que c'est des choses de l'ordre de la superstition et en même temps qui prouvent que nous sommes aussi dans la présence des esprits. Et donc, on vit avec, on fait avec et tout. Très souvent, il y a beaucoup de conteurs qui, soit ils portent un chapeau, soit ils ont un bâton. Personnellement, j'aime mon carré madras ou mon chapeau. Et quand ils vont commencer à compter, quand ils arrivent, ils ont besoin de s'ancrer. On verra des fois discrètement ou pas discrètement, ils vont taper le sol. Ils vont faire appel à la terre, je ne dirais pas l'esprit de la terre, mais les ancêtres sont là. Ils vont chercher cette relation où des fois, ils vont poser le bâton au sol pour compter. Donc, ils savent qu'ils sont en liaison. C'est leur bâton, mais ils le mettent là pour créer le lien et avoir cette chose, cet esprit des autres avec eux. Et dans les formules qu'ils vont utiliser, on ne connaît pas les formules de tous les conteurs, ils vont utiliser des formules, etc., où ils vont dire des choses que nous, on ne va pas comprendre. C'est chez les vieux conteurs, des fois. Mais c'est ça, leur façon d'être, de chercher la relation et d'exister. Donc, en gros, l'aspect magique, l'aspect spirituel existe dans le matériel aussi. Et donc, ils ne sont pas seuls et l'objet fait cette liaison.
Maman m'a toujours dit, malheur, il va en côté. Premier bagaille pour faire, premier bagaille pour dire, c'est dit bonjour ou bien bon souhait. Mesdames, messieurs, bon souhait. Maman moi qui fait diri doux, il bâti doudou, il papa moi Adam. Tous les souhaits, c'est la farine sèche, l'amour y rôti et puis frit à pain. Qui m'en y est ou les moins vinigro, si maman moins, pas caba moins manger. Qui m'en y est ou les moins vinigro, si maman moins, pas caba moins manger. Maman moins qui fait ma tété, y bâti dédé, y paba moins Adam. Tous les souhaits, c'est la farine sèche, l'amour y rôti et puis frit à pain. Qui m'en y est ou les moins vinigro, si maman moins, pas caba moins manger. Qui m'en y est ou les moins vinigro, si maman moins, pas caba moins manger. Parce que la nourriture n'est pas seulement pour le ventre. La nourriture, c'est aussi pour l'esprit et l'élévation de chaque être humain. Mesdames, messieurs, le conte en Martinique est interactif. Ce soir, vous êtes des spectateurs. Vous participez à l'histoire. Et quand je dis « yé cri », vous répondez « yé mystique cri ».
«
Cri ».
«
Yé cri ». « Yé mystique cri ».
«
Cri ». « Cri ». Est-ce que la cour dort ? Mesdames, messieurs, si la cour ne dort pas, écoutez cette histoire que je vais vous conter, car plus la soirée sera longue, et puis les paroles vont se dérouler comme un long fil jusqu'à l'horizon. Yécri. Un bon matin, au pipiri chantant, la hyène se lève.
La hyène est le compère lapin à l'accent créole de la Martinique, de Valère Aigoui. C'est pas pour dire, avec le conteur Valère Aigoui.
J'étais étonnée, tu disais l'autre jour que dans les veillées d'enterrement, on raconte des histoires qui n'ont en fait rien à voir ni avec la personne qui est dans son cercueil. On n'est pas en train, comme les griots par exemple, comme le faisaient les griots, de retracer la vie de cette personne, de sa famille, de ses parents. On ne parle pas de lui vraiment.
Non.
On ne parle pas de la famille non plus. On ne parle pas non plus de la tristesse ou du deuil, pas vraiment. On ne parle pas... Ce n'est pas des contes qui disent quelque chose des croyances en un au-delà ou quoi, pas
non,
du tout.
Et en même temps, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Et puis, il y avait plusieurs tranches horaires, plusieurs niveaux de contes en fonction de l'heure.
Ah.
On sait que les enfants sont là à 18 heures. Le soleil est couché, les enfants sont là. Les conteurs vont compter certaines choses. La façon de formuler va être d'une façon pour que l'enfant puisse comprendre l'histoire, ressentir l'histoire, l'apprécier, mais ne pas comprendre ce qu'on dit au deuxième niveau. L'enfant n'est plus là, on va passer à un autre niveau. Et jusqu'à arriver aux contes, les contes tabous, comme aimait le dire mon frère, où on va parler de ce qui se passe entre adultes, etc., sans nommer ce que...
Quand tu parles de contes tabous, tu parles...
Les contes coquins.
Oui, c'est ça.
Contes coquins et tout. Mais pareil, la montée, comme une montée dramatique. Il va y avoir une montée pour les contes qui pourraient faire peur, une montée pour les contes qui se rapprochent des rapports entre hommes-femmes. Mais à chaque niveau, à chaque tranche horaire, la compréhension est différente. Ça veut dire que les enfants peuvent suivre tout cela. Les enfants s'endorment, on va se rendre compte qu'on passe à un autre niveau, on raconte d'une façon différente. Les mots sont développés, sont dévoilés différemment, et puis on monte encore. Mais l'objectif des conteurs, pourquoi ils ne faisaient pas comme les criots, c'était à la fois pour divertir, à la fois pour aider la famille à passer la nuit, c'était à la fois pour transmettre, et puis à la fois pour se retrouver, parce que les moments de naissance, de communion, tout ce que la religion a apporté, la communion, le baptême, le mariage et la mort, c'était des moments de rencontre, de retrouvailles, pour de nouveau échanger, pour de nouveau vérifier si nous sommes toujours liés, si nous continuons à communiquer, à dire
mais
des
on
choses.
On racontait aussi pour les baptêmes, les communions, les mariages,
non.
Tout ça.
Non, non. C'était à la veillée mortuaire.
Vraiment en relation avec la mort, non.
Oui, c'est la nuit, passer la nuit, veiller avec la famille. Et également, quand quelqu'un meurt, on ne va pas dire que la personne est morte. On va dire qu'elle est partie. Mais elle est partie, mais elle reste avec nous, quelque part. Son esprit est là, on sape sa présence, les gens parlent de ceux qui sont partis avant. Et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de rester dans la vie. Celui-là n'est plus avec nous physiquement, mais il est toujours là. On n'a pas besoin de etc. Donc, mais ce qui veut dire aussi qu'on a, comme nous sommes un peuple hybride, on est un peuple mélangé. Nous avons un peu de chaque coin d'Afrique ayant traversé la Martinique, et aussi des Amérindiens et aussi des Européens, parce qu'il y a des endroits en Afrique où on fête. Le défunt. On fait une grosse fête parce qu'il est décédé. Et à la naissance, des fois, les gens pleurent. Il y a des endroits où la culture, c'est comme ça.
C'est ça.
Quand quelqu'un
pleure quand quelqu'un naît, et tu fêtes quand
voilà,
il va.
Et wow. Et vécu la vie. Mais comme on est traversé de 1000 cultures, y compris les Indiens, c'est aussi pour ça que j'utilise la partie Madras dans ma façon d'être visible. On n'est pas... On est triste parce qu'on a perdu un être, etc. On ne pourra plus le voir. Mais en même temps, on n'est pas content. Mais la vie continue avec nous. Nous sommes encore vivants. Ne l'oublions pas. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Oui.
Conversation avec Valérie Gouy au micro de Angel Goduchot.
Dans le conte tel que tu le connais, tel que tu le vis aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il y a une part grande d'improvisation?
L'espace d'improvisation existe dans les branches, quand on sort de l'histoire centrale et qu'on va dire. Par contre, la création d'image, la proposition d'image que nous faisons, évidemment, c'est un espace d'improvisation qui est fait en fonction du public. Par exemple, ici, on ne va pas, comme on ne parle pas de spectacle, on ne va pas inviter un conteur pour qu'il dise ceci ou cela.
Ah oui.
On invite le conteur.
Ouais.
Et quand il arrive, il voit qu'il y a 10 enfants et 5 adultes, il va dire des contes qui correspondent aux gens qui sont devant lui. Et voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai eu un peu de mal les premières fois que je suis allé en tournée sur la France. J'ai eu un peu de mal de leur dire « Attends, mais je ne sais pas qui sera là. Vous voulez que je vous dise exactement ça ?» Et bon, je me suis adapté, bien entendu.
C'est quoi alors un spectacle par rapport à une... par rapport à un moment de conte? C'est quoi la différence?
Le spectacle, il va partir d'un point, il va arriver à un autre point et il va durer à 5 minutes, 10 minutes près, sauf dedans avec les variations. Un temps de conte, c'est véritablement un temps beaucoup plus d'échange et de relations qui peut durer une heure, comme qui peut durer une heure et demie, comme il peut durer deux heures, et comme on peut faire un conte et l'ouvrir au maximum, être dedans pendant 30 minutes, comme le faire, on le sent comme ça, là, avec les gens, on leur amène à 10 minutes, c'est encore plus être présent. Et ça ne va pas être forcément des contes qui se suivent dans les thématiques, parce qu'un spectacle, il y a un thème fort, il y a un cœur, et puis on l'ouvre et on le développe et on le ferme, et on a dit une chose, on peut le résumer en une phrase.
On sait que c'est fini alors. Qu'est-ce qui fait que ça marque la fin? C'est le moment où le conteur a plus d'inspiration et il dit tirez-moi de là.
Mais ça va dépendre du moment et ça va dépendre du temps. Dans le temps, puisqu'on faisait la veillée, il est fini au lever du soleil. On s'arrête là de toute façon. Après, il y a eu des soirées contes hors veillée. Eh bien, ça pouvait durer s'il y avait. J'ai dit n'importe quoi, 5 conteurs, on permettait aux 5 conteurs de pouvoir dire ce qu'ils voulaient. L'idée, c'était d'équilibrer. Bon, si celui-ci en fait 2, les autres devront en faire 2 aussi. Et quand tout le monde a donné 2 contes, eh bien, on sait que la soirée est finie. On essaie d'être dans le côté équitable. Et puis, il y a une autre formule où c'est, par exemple, c'est ce conteur-là qui nous reçoit dans son quartier.
Ah oui.
Il peut, de façon, il peut donner plus de place aux invités, ou il donne aux invités une place et il prend tout le reste. Donc, il y a les deux façons qui existent. Un petit peu comme je le fais pour Contre la pleine lune, je fais toujours une ouverture et je laisse la place et je vais clôturer. Si je sens que les gens sont en mesure de prendre une dernière histoire, je boucle avec un conte. Si je sens qu'ils ne sont pas en mesure, je viens simplement boucler et je termine. Parce que dans la transmission, il y a certes ce que donne le conte, mais il y a la forme aussi et la structure aussi que nous transmettons. Et comme il y a, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a pas de tranche d'âge sur les affiches de contes pour ce que je fais ici. Parce que si les gens me disent, particulièrement les Français qui vivent en Martinique, me disent, mais c'est à partir de quel âge? J'ai dit, est-ce que votre enfant s'est écouté? Oui, emmenez-le. S'il en a marre, vous éloignez, et puis c'est bon. Mais il y a à tout
c'est d'autant
âge,
plus facilité par le fait qu'on n'est pas dans une salle fermée dont on devrait ouvrir les portes et que ça fasse...
Exactement.
Tout ça, c'est plus ça.
Oui. Et puis j'ai vu des enfants progresser de cette façon. Oui. Venir écouter, rester 10 minutes. Oui. Venir écouter, rester 30 minutes. Venir écouter jusqu'à faire la soirée. Oui. Mais il faut bien commencer un jour.
Mesdames, messieurs, au bout d'un moment, comme dans les westerns de Sergio Leone, la femme regarde l'homme dans le blanc des yeux et d'un coup de tête, elle tourne. Vous avez dû sentir le vent des cheveux. Mesdames, messieurs, la femme est partie vers le lointain et son corps commençait à faire une musique. Et cette musique faisait tchiki-tchik, tchiki-tchik, tchiki-tchik. Elle avançait. Elle avançait. Elle avançait. Yekri. Mesdames, messieurs, quand l'homme voit le corps de la femme faire cette musique-là, Tchaïkou Massé Brené en disant toute coille, son cœur est descendu de son beau orteil et remonté. Pendant que le cœur passait, il a bloqué à droite. Enfin, c'est pour ça que le cœur est à gauche. Mesdames, messieurs, l'homme, son sang avait fait plus d'un tour. Il a tendu son bras. C'est pour les adultes. Hein? Il a tendu son bras dans l'eau, a ramené la femme dans la maison et quelques années plus tard, le premier peuple de la terre naissait, et c'est pour ça que nous sommes tous réunis ce soir. Yekri! Yamistikri! Yekri! Merci de votre écoute.
C'est pas pour dire, Valérie Gouy avec un extrait de L'homme et la femme.
Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'oralité et le conte en Martinique?
J'aimerais qu'il y ait un lieu identifié, identifiable, pour que nos enfants puissent, s'ils se questionnent, se dire « je vais à tel endroit, écouter tel conteur », même si on n'a pas tous les conteurs, en tout cas les conteurs de notre génération, les enregistrer, qu'ils se présentent et que dans 10 ans, que ma petite fille ait envie de dire à son enfant « voilà, papa était conteur, viens écouter », qu'il y ait un lieu pour qu'on puisse écouter les conteurs. Je ne veux pas forcément de livres, puisqu'on est dans l'oralité, mais une audiothèque, créer une audiothèque. C'est un petit peu ça mon souhait.
Audiothèque, centre de ressources.
C'est ça, c'est ça.
Parce que pour le moment, les vieux conteurs dont tu parles, là, personne ne les a enregistrés.
Ina Césaire, peut-être, a des enregistrements. Mais elle a réécrit. Je ne suis pas sûr. Il y en a d'autres qui ont enregistré et qui l'ont gardé. Je ne veux pas, comme il y a eu les vieux conteurs étaient devenus, il y en a plein qui sont partis malheureusement, ils étaient devenus méfiants au bout d'un moment parce que beaucoup de personnes sont venues puiser et puis ils n'ont pas eu de retour véritablement. Et de ce fait, quand était venu mon moment d'aller collecter et de rassembler, je me suis retrouvé face à des gens méfiants.
Un peu méfiant.
Et je me suis dit, je ne vais pas les forcer, je laisse. Et je ferai, entre guillemets, pour ma génération. Entre guillemets, comme le colibri, chacun fait sa part. Je tenterai de faire ma part pour mon siècle, ma génération et tout.
Donc c'est ça que tu aimerais,
oui, oui.
Qu'en Martinique, il existe un centre de ressources, un lieu identifié pour le conte.
Pour le conte.
Où on puisse avoir à la fois la mémoire et à la fois peut-être un centre de formation.
Formation, création, diffusion.
Ouais.
Puisque le conte est léger. Il n'a pas besoin de choses extraordinaires. À mon avis, c'est possible.
Et c'est pas déjà ça?
L'AMI, c'est déjà ça, mais de façon itinérante. On n'a pas de lieu. On travaille...
Donc, juste un lieu?
Oui, si j'ai un lieu, je développe une action plus solide avec une racine quelque part. C'est ça qui manque, pouvoir planter... Oui, oui, juste voilà. Planter la racine quelque part. Voilà.
Bon, ben on espère ça.
Mais bon, ça va être ma dernière année après.
Et donc, quand tu dis que je t'occupe de toi, toi aussi, qu'est-ce que c'est ton rêve de conteur?
Il y a plein de choses, il y a plein de types, entre guillemets, de spectacles que j'ai envie de créer. Puisque j'ai un répertoire sur l'eau, j'ai un répertoire sur la forêt, j'ai un répertoire sur la mer, j'ai des choses comme ça, mais je ne peux pas les passer en bouche, je ne peux pas les faire revivre, et je ne peux pas les dire des contes que je n'ai pas nourris et pas les partager comme cela. J'ai besoin d'avoir du temps pour pouvoir les remettre en bouche et pouvoir créer les formes et les formules pour qu'il n'y ait pas de copier-coller, qu'il y ait des différences entre chaque forme, pour pouvoir les présenter et continuer la transmission autrement.
Donc, tu as besoin de temps, en fait.
Oui, j'ai besoin de temps. J'ai aussi envie, parce que c'est dans notre siècle, j'ai aussi envie, pas forcément de tout écrire, mais d'écrire tout le chemin, tout ce qui s'est passé, pour qu'il y ait une trace, justement, de mon parcours, et de ce qui a animé le parcours, ou qu'il y ait véritablement quelque chose à laisser. C'est un petit peu ça, mais je n'ai pas le temps d'écrire. J'écris quand je suis en voyage.
Oui, c'est ça, parce que là, tu es quand même un genre d'homme d'affaires du conte.
Oui, un peu. et j'aimerais aussi avoir la possibilité de conter plus ici, parce qu'ici, je suis beaucoup plus directeur. Et je ne suis conteur que quand je sors. Je fais un peu de direction quand je ne suis pas là, par obligation, mais je suis plus conteur quand je pars en tournée, mais quand je suis en Martinique, je ne compte pas beaucoup. Je suis beaucoup plus directeur que conteur. Et bon, ça, c'est pour ça que je m'oblige à partir en tournée. Des fois, je refuse des choses, mais je m'oblige à partir en tournée pour entretenir ce que j'ai. Mais on ne peut pas créer quand on est... on ne peut pas assez créer quand on est comme ça.
Oh, merci.
Un plaisir.
Il y a beaucoup de choses à découvrir sur le conte martiniquais. Mémoire vivante et historique du pays.
Mais cette émission de C'est pas pour dire arrive à sa fin et on ne saura pas tout. Un grand merci à Valérie Gouy et à Anne-Gaëlle Gonuchot de nous avoir fait partager ce moment à Fort-de-France. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes ses petites sœurs sur notre site www.cestpaspourdiretoutattaché.fr et nous envoyer vos commentaires ou suggestions sur la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Thank you.